Chapitre 12e. L'homme dans les roseaux. Après la salle commune se trouvait une sorte de cabinet réservé aux clients de choix. On nous l'avait attribué. Dans le cabinet se trouvait un garçon qui devait nous servir et qui s'était donné à l'aubergiste comme valet de chambre du propriétaire de l'auto et prétendait avoir l'habitude de son service. L'aubergiste l'avait laissé faire. C'est lui d'ailleurs qui avait organisé la répartition des tables, d'après les ordres de cet ami dont Martin Dumas avait parlé à l'aubergiste. Je reconnus le valet de pied qui se trouvait à côté du mécanicien. C'était Prosper. Avec une habileté consommée de garçon de restaurant, il se mit à nous servir. J'avais remarqué un troisième couvert à notre table. Martin Dumas n'en parlant pas, je ne posais aucune question à ce sujet. Nous commencions à peine de déjeuner que dans le petit cabinet entra un homme vêtu, comme nous l'étions nous-mêmes tout à l'heure, de la fourrure de tout automobiliste. C'était Philippe. « Je vous demande pardon, chef, » fit-il en entrant, « d'être un peu en retard. » Il accrocha sa pelisse à une patère et vint sans plus de façon s'asseoir à la table, à côté de Martin Dumas. « Eh bien ?» fit celui-ci vivement. « Rien encore. J'ai laissé un cordon de renseignement, d'ici à Saint-Germain. Mes hommes sont éparpillés, mais de façon à pouvoir correspondre entre eux, si quelque chose se produisait. Vous serez prévenu aussitôt, par ce moyen, de quelque endroit que ce soit. Bien, vous avez vu partir le comte ? Je l'ai vu partir seul. Seul, sans mécanicien ? Le sien a une conduite assez bizarre. Il s'est tenu pendant un moment, après leur arrivée, devant l'auberge, auprès de la voiture. Quand le comte est entré dans l'auberge, un homme s'est approché de ce mécanicien et a parlé quelques secondes avec lui. Le mécanicien alors s'est glissé sous la voiture et s'est mis à travailler. Quand il eut fini, rentrant ses outils dans le coffre, il est parti dans la direction que prit en le quittant l'homme qui était venu lui parler tout à l'heure, laissant l'auto là. Ensuite, vous étiez pendant ce temps arrivé. C'est un peu après votre arrivée à l'auberge que le comte est sorti par un trou de la haie près de laquelle sa voiture était rangée. Il semblait affolé, hagard. Il chercha du regard s'il n'apercevait pas son homme. Ne le voyant pas et n'ayant sans doute pas de temps à perdre, il haussa les épaules, comme pour dire « tant pis pour lui ». Il reviendra comme il pourra. Il mit en marche le moteur, prit le volant et partit d'un bond à toute vitesse. Oui, nous pensions que cette scène avait dû se passer ainsi. Après, le comte di Villacerboli venait à peine de filer qu'un homme accourait, appelant, faisant des gestes désespérés. Il ramassa à terre quelque chose. Tout à coup, il s'enfonça comme un sanglier dans la haie pour pénétrer plus vite dans le jardin de l'auberge et il s'écria « Pourvu qu'un Lio ne soit pas dans sa voiture, faites mon Dieu que je n'arrive pas trop tard !» Mais le comte était dans sa voiture. Alors, qu'a fait cet homme ? Peu après, de mon poste d'observation, je l'ai vu reparaître, plus affolé, plus furieux que tout à l'heure. Je crois même qu'il pleurait. Il courut à sa voiture et avec son mécanicien se lança sur les traces du comte. « Eh bien, dans ce cas, nous n'avons plus qu'à déjeuner. » Nous achevions de prendre le café et finissions les cigares, quand des cris retentirent que scandèrent quelques coups de feu. « Ah ! » fit Martin Dumas. « La bête se défend. » Philippe sortit aussitôt. Des coups de revolver éclatèrent encore, puis des cris, au loin. « Allons voir, » me dit Martin Dumas. Martin Dumas et moi, le revolver prêt dans la poche, nous nous élançâmes dans la direction des cris que nous entendions. Ils partaient du bas du jardin, sur le bord de la Seine, mais à quelque distance. Là se trouvait un endroit assez vaste, formant retrait, comme une baie sur la rive du fleuve, assez profond, les eaux ayant monté à la suite des dernières pluies et qu'envahissaient des roseaux en touffes épaisses, des iris, des plantes d'eau, conservées précieusement parce que dans leurs racines venaient chercher abri et pondre toutes sortes de poissons. Charmant endroit, mais dangereux. Les lianes aquatiques formant filets, gardant dans leurs inextricables réseaux le malheureux qui serait tombé à l'eau. La légende du pays dit que des pêcheurs étaient tombés là qu'on n'avait jamais retrouvés. On prétend même qu'un couple de nouveaux mariés, après déjeuner à l'auberge, ayant voulu bercer son amour sur l'eau, s'était égaré dans cette baie fatale et qu'on retrouva seulement le voile de la mariée accroché au roseau, témoin du malheur. Là, précisément, sur la rive ou en canot, les pêcheurs de tout à l'heure, munis de longues gaffes, de perches, procédaient à des recherches dans la baie. C'était leurs cris, leurs appels que nous avions entendus. « Que se passe-t-il donc ? » demanda Martin Dumas à celui qui, du bord, semblait diriger la manœuvre. « L'homme au tablier, celui qui joua auprès de vous dans la tonnelle tout à l'heure, le rôle de garçon de l'aubergiste, est dans l'eau. Il vient de sauter dans la Seine pour nous échapper, dans les roseaux, dans les herbes. Il a dû être retenu au fond car nous ne le voyons plus revenir. Voilà bien 5 minutes que nous fouillons l'endroit où il a piqué son plongeon. 5 minutes, à moins d'être amphibie, il s'est noyé. C'est ce qui a dû lui arriver. Nous le suivions, nous le tenions dans la souricière. Quand il a compris qu'il était pris, qu'il ne pouvait nous échapper et que nous allions l'arrêter, il a fait feu sur nos hommes. J'ai entendu. Quelqu'un de blessé? Non, pas grave, 2 éraflures. Bon. Après avoir épuisé ses cartouches, il a sauté dans l'eau en nous voyant resserrer notre souricière. Il espérait traverser la Seine à la nage, aborder sur l'autre bord et fuir par la plaine. Mais l'endroit est dangereux. On y laisse sa vie, paraît-il. Toujours est-il que nous l'avons vu plonger, mais que nous ne le voyons pas reparaître et que malgré nos recherches, nous ne trouvons pas son cadavre. Martin Numa regarda lui aussi cet endroit qu'on appelait le golfe, cette sorte de petite baie encaissée et couverte d'herbes, de roseaux. Il l'étudia. Puis, se tournant vers son agent, « Si cet homme a vraiment de l'énergie et du courage, dit-il, il nous échappera s'il n'est pas mort. » Je me rendis compte que dans ce fouillis d'herbes et de racines d'arbres, de plantes, il était aussi aisé de se cacher que difficile de découvrir quelqu'un. Chaque touffe de roseau offrait un abri, et à moins de chercher, en allant de feuille en feuille, on ne pouvait rien apercevoir. Dès lors, un homme qui aurait l'énergie, la volonté, et aussi l'endurance nécessaire pour se tenir dans la vase, la tête sous une touffe d'herbe, ne laissant passer que les yeux pour voir, le nez pour respirer, pouvait demeurer inaperçu alors même qu'on passerait tout auprès de lui. Il faudrait le hasard d'un coup de pieu, de gaffe, de crochet, le frappant, le blessant, le happant, pour l'arracher à sa cachette. Comme nous revenions vers l'auberge, Philippe dit à Martin Numa, nous avons arrêté le mécanicien du comte de Villars-Cherboli. Il parlait à cet individu qui a tiré sur nos hommes et qu'on recherche encore dans l'eau. « Ah, vous le tenez, celui-là ? » ?»« Oui. Parfait. Venez. Je vais vous donner un mot. Vous le ferez écrouer à Poissy, en attendant. » Peu après, il remettait à Philippe une de ses cartes sur laquelle il avait griffonné quelques lignes. Et 10 minutes après, le mécanicien du comte de Villars-Cherboli se dirigeait à pied entre 2 agents à poigne solide vers Poissy. D'ailleurs, il ne faisait aucune mine de résister. Il bargouinait des explications en franco-italien que même avec le concours de ses gestes amples, abondants, on ne comprenait pas bien. Martin Numa alluma une nouvelle cigarette quand Prosper, redevenu son valet de pied, accourut. « Chef, lui dit-il tout bas, vivement, ça y est. Quoi ? L'accident prévu ? Le comte ? La voiture a versé dans un fossé d'une des routes de la forêt de Saint-Germain. Elle brûle en ce moment. »